Vous êtes sur RTL.
Présenté par Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
La reconnaissance faciale peut-elle permettre de condamner un suspect ?
À Lyon, un voleur a été identifié grâce à ce système, mais la justice refuse pour l'instant de le poursuivre. La République en marche, divisée après les propos d'Emmanuel Macron sur l'immigration. La question de l'AME, l'aide médicale aux sans-papiers, crispe la majorité. On va y revenir. Agression, manque d'effectifs, les pompiers ont manifesté cette semaine. C'est extrêmement rare, vous les entendrez. Et puis la Ligue des champions, début compliqué pour Lille et pour Lyon. Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte le Real Madrid.
À deux fois le temps d'ici 6h30.
Ouais, serré dans les Pyrénées-Orientales, changement de temps avec des nuages, des averses, voire un orage, mais toujours de la chaleur, 31 degrés.
RTL Matin.
Et donc cette question, au même titre que l'ADN ou les empreintes digitales, la reconnaissance faciale peut-elle constituer une preuve ?
Le débat est lancé à Lyon après l'interpellation d'un voleur arrêté par les gendarmes grâce justement à un logiciel de reconnaissance faciale. Le problème, c'est la seule preuve dans ce dossier et le procureur refuse pour l'instant d'y accorder du crédit, perplexe sur la fiabilité du système. Retour sur les faits avec le correspondant de RTL, Frédéric Perruche.
Le 5 septembre dernier, M. H vole un camion de fret dans un entrepôt de Corba. Les images de vidéosurveillance sont saisies, elles sont plutôt nettes. Et une photo de l'individu est rentrée dans un logiciel de reconnaissance faciale. Très vite, la machine sort un nom. M. H était dans le fichier des gendarmes. Il est interpellé sur ce seul élément et renvoyé devant le tribunal. Mais que vaut ce système? Quelle est sa fiabilité? Question posée à la barre par l'avocat du voleur présumé, Maître Bambanast.
C'est-à-dire que vous avez un robot accusateur qui, à partir d'images de vidéosurveillance, a dit « c'est monsieur un tel ». Comment cette machine a été paramétrée? Selon quel critère? Comment reconnaît-elle un individu? Comment se permet-elle d'accuser un individu? Quel est le risque d'erreur judiciaire? C'est invraisemblable, c'est très inquiétant, c'est un monde orwellien.
Faute de réponse immédiate à ces questions, le procureur a demandé le renvoi du procès à la fin octobre, le temps de vérifier la fiabilité de ce système de reconnaissance faciale. Nul doute que sa décision sera scrutée très attentivement par la justice et tous les services d'enquête.
Frédéric Perruche à Lyon. Un peu plus de 4 ans après l'attentat du Thalys, une reconstitution doit avoir lieu. Aujourd'hui, c'est une information RTL. Souvenez-vous, en août 2015, 3 touristes américains en vacances en Europe avaient, au péril de leur vie, déjoué un attentat à bord d'un train reliant Amsterdam à Paris.
Il a durci le ton et ça ne plaît pas à tout le monde.
Au lendemain des propos d'Emmanuel Macron sur l'immigration, hier, une douzaine de députés En Marche, issus de l'aile gauche du parti, ont signé une tribune appelant à éviter l'hystérie sur ce sujet. Alors que se tiendra à la fin du mois au Parlement un débat sur l'immigration au cours duquel sera abordée la question de l'AME, l'aide médicale d'État, ce dispositif qui permet aux sans-papiers de bénéficier en France d'un accès aux soins. Selon les informations de RTL, plusieurs députés marcheurs préparent désormais une lettre adressée au Premier ministre lui demandant de ne pas sacrifier l'AME pour des raisons budgétaires. Marie-Bénédicte Allaire, sur ce thème, la majorité a bien l'intention de se mobiliser.
Oui, pour Mathieu Orphelin, se focaliser sur l'aide médicale d'urgence, c'est envisager la question des migrants par le petit bout de la lorgnette.
Il ne faut pas qu'on fasse croire que des millions d'étrangers arrivent en France pour profiter de l'AME. Ça n'a aucun sens.
Un dispositif qu'il faut préserver au nom des valeurs de la France, insiste même le MoDem Erwan Balanant.
C'est un élément qui fait partie de l'honneur de la République d'avoir cette AME. Donc il faut qu'on le garde et il faut qu'on fasse même peut-être en sorte de l'améliorer. Donc s'il y a des abus, mais moi je ne crois pas qu'il y ait des abus, ou s'il y en a, ils sont à la marge, il faudrait travailler à ce qui n'existe plus.
Et dans une lettre signée avec une trentaine de collègues, Martine Vonner met en garde le gouvernement contre la tentation de restreindre l'accès à l'AME.
Bien évidemment, il faut lutter contre la fraude, il faut lutter contre les passeurs, mais ne nous laissons pas piéger par le Rassemblement national sur une remise en question de l'aide médicale d'État.
Beaucoup dans la majorité ont en effet peur que le débat vire à la caricature.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
Allez, dans un instant, la colère des pompiers, trop c'est trop, face aux agressions, face au manque d'effectifs, ils sont sortis dans la rue cette semaine. Vous allez les entendre juste après ça sur RTL.
Sage.fr. RTL Matin, Julien Cellier.
Et la suite de votre journal à 6h06 sur RTL. Agression, manque d'effectifs, c'est un ras-le-bol généralisé et les pompiers l'ont exprimé bruyamment cette semaine.
En manifestant dans les rues de Versailles, c'est assez rare de voir les pompiers dans la rue parce qu'ils n'ont logiquement pas le droit de manifester. Mais face à l'accumulation des agressions, des interventions, parfois obligées d'assumer des missions qui ne sont pas les leurs, ils ont décidé d'alerter les pouvoirs publics. Trop c'est trop pour Jérémy Courtel, vice-président du syndicat autonome des Yvelines.
La manifestation des pompiers, elle est rare, sauf quand le ras-le-bol il se fait sentir et que ça nous oblige à sortir dans les rues pour manifester notre mécontentement. Il manque des gens dans les camions, les véhicules partent incomplets sur intervention. Un véhicule d'incendie, normalement c'est 6 personnes à bord, et bien souvent on compte plus les fois où il part à 5, à 4, voire à 3 sur intervention. Donc c'est tout le déroulé de l'intervention par la suite qui est mis à mal. En parallèle de ça, il y a de plus en plus d'interventions qui sont de l'ordre, non pas de la bobologie, mais de l'assistanat. On va chez des gens parce que leur voisin fait trop de bruit, on nous dit d'intervenir avec les voisins pour que les voisins fassent moins de bruit. Et clairement, c'est pas notre rôle. Comme on est les seuls qui répondent obligatoirement, c'est nous qu'on envoie et c'est nous qui on demande par la suite de faire le travail et d'emmener les gens vers le centre hospitalier pour leur pathologie ou pour toutes les différents bobos qu'ils peuvent avoir.
Un propos recueilli par Anne Le Hénaff pour RTL. En Israël, alors que les sondages sortis des urnes donnent l'actuel Premier ministre Netanyahou au coude à coude avec son principal rival Benny Gantz, celui-ci a appelé cette nuit à un large gouvernement d'union. Ses soutiens y croient, partisans d'une relance de la réconciliation entre juifs et arabes. Mais pas question, lui a répondu dans la foulée Netanyahou dans un discours musclé, le Premier ministre sortant qui souhaite pour sa part un gouvernement sioniste fort. Et puis pour la quatrième fois en quatre ans, les Espagnols vont devoir revoter, annonce hier du Premier ministre Pedro Sanchez face à l'impossibilité de former une majorité.
Allez, on passe au foot maintenant avec cette entrée en matière difficile hier soir pour les clubs français en Ligue des Champions.
Lyon a été tenu en échec un partout hier soir à domicile par le Zénith Saint-Pétersbourg. Quant à Lille, le club a été largement battu par l'Ajax Amsterdam, 3-0. Ce soir, le spectacle, ce sera au Parc des Princes. Le PSG reçoit le Real Madrid et la partie s'annonce coriace pour les Parisiens, privés de Cavani et d'Mbappé toujours blessés et de Neymar suspendu. Pression maximale dans le camp parisien. On est beaucoup plus serein, Mathias Valton, côté espagnol.
Oui, les supporters madrilènes ne se faisaient déjà pas une montagne du PSG après le tirage au sort. Alors, avec l'absence de Neymar, Mbappé et Cavani, ils sont persuadés que leur victoire ne sera qu'une formalité.
Ce sont les meilleurs joueurs du PSG. Sans eux, on va gagner haut la main. Il y a 2 ans, on les avait déjà battus facile. Ça va être pareil ce soir.
Zidane et les joueurs du Real, eux, martèlent un discours de prudence, conscients de la qualité de l'équipe parisienne malgré ses forfaits importants, conscients surtout qu'un excès de confiance pourrait leur être préjudiciable. Et si Paris est affaibli offensivement, le Real, lui, n'est pas non plus flamboyant depuis le début de saison. Plus que les absences des 3 stars parisiennes, les supporters merengues craignent donc surtout leur propre équipe.
Le problème, c'est qu'on n'est pas bien. Si on avait encore Cristiano Ronaldo, oui, là, ce serait facile. Mais je n'ai aucune confiance dans le niveau du Real.
À Madrid, en tout cas, le match de ce soir ne passionne pas les foules, car tout le monde ici est persuadé que le Real, comme le PSG, se qualifieront pour les 8e de finale.
Mathias Valton à Madrid pour RTL, PSG-Real, l'affiche de ce mercredi. C'est à suivre en intégralité sur RTL dans Soir de Ligue des Champions de 20h à 23h avec tout le service des sports réuni autour de Bichente Lizarazu.
Bichente qui sera avec nous dès 8h20 sur RTL avec Yves Calvi. Les courses au Croisé-la-Roche.
Et voici les pronostics de Claude-Pierre Santi, le 7, le 6, le 2, le 16, le 8, le 15, le 12 et le 14. La dernière minute, c'est le 16, Darlington Park.
Merci beaucoup Dominique.